Bonsoir à tous. C'est bien les robots, ça ne tombe pas malade, ça n'organise pas d'opération escargot, ça ne renverse pas de fumier devant les ministères, ça ne se syndique pas et ça fait ce qu'on leur demande. Le Japon vient de créer la première ferme entièrement robotisée. Les laitues y pousseront sur des étagères pour terminer en sachets sur les linéaires des supermarchés. Un mode de production économe en hommes, mais aussi en eau et en énergie, promis sans pesticides pour un rendement de 30 000 salades par jour. Alors est-ce que c'est ça l'avenir ? L'agriculture de demain, c'est l'agroécologie qui va mobiliser aussi bien l'agronomie que la robotique, le biocontrôle, les biotechnologies et le numérique, plaidait François Hollande il y a un an, jour pour jour, dans un entretien accordé à AgraPress. Réseau intelligent, écomobilité, pour le prospectiviste américain Jeremy Rifkin, l'agriculture française doit entrer sans tarder dans la troisième révolution industrielle. En s'appuyant sur des technologies nouvelles et le big data, la recherche s'engage chaque jour un peu plus vers une agriculture de précision, avec une promesse, produire plus avec moins, un maître mot, optimiser et une finalité, gagner en productivité. Près de 10 milliards d'êtres humains à nourrir en 2050, comment l'innovation peut-elle voler au secours de l'agriculture et du défi monstre auquel elle sera confrontée demain ? Qu'attend-on ? Mais d'abord, de quelles innovations parle-t-on ? Au service de quelle agriculture et pour quels agriculteurs ? À l'occasion du Salon de l'agriculture et à la veille de la présentation au Salon par le ministre Stéphane Le Foll du rapport Agriculture-Innovation 2025, coproduit par l'IRSTEA, AgroParisTech, l'ACTA et l'INRA, les scénarios ce soir de nos invités. Jean-Marc Bournigal, tout d'abord, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président d'IRSTEA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture. C'est un établissement public sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Recherche. Vous êtes donc l'un des quatre auteurs, co-auteurs du rapport Agriculture et Innovation 2025 qui recense 30 projets pour une agriculture compétitive et respectueuse de l'environnement. À Bordeaux, Philippe Biwix, bonsoir.
Bonsoir.
Ingénieur conseil, auteur de L'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable, un ouvrage paru au Seuil en avril 2014, prix de la Fondation de l'écologie politique. À Toulouse, également avec nous, François Pursaigle, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Sociologue et ingénieur en agriculture, professeur des universités en sociologie à l'Institut National Polytechnique de Toulouse, co-auteur de Sociologie des mondes agricoles avec Bertrand Hervieux, un ouvrage paru chez Armand Collin. Paris, Toulouse, Bordeaux, grâce à nos amis de France Bleu, preuve que cette question interpelle aux quatre coins de la France, en direct ou en podcast, c'est sur franceculture.fr, c'est via Facebook ou Twitter, hashtag et après. Dans tous les cas, on est ensemble, bienvenue jusqu'à 19h.
Dimanche et après, Olivia Jesbert.
On se retrouve face à des familles qui sont vraiment dans la misère, dans la détresse humaine.
Si jamais rien n'est fait, moi c'est plus de 10% de ma population qui est condamnée à ne pas travailler. J'ai jamais eu cette impression-là de vraiment un désespoir, pas possible. Je suis très inquiète pour le territoire. On peut être une région qui peut devenir un no man's land très rapidement.
Nos prix de vente, notamment des céréales, sont les mêmes si on prend un franc constant que dans les années 70. Donc je vous laisse largement imaginer le niveau de charge, l'ampleur qu'il a pris depuis 40 ans en France. Donc c'est vrai que l'équation est très facilement calculable, quoi. On a des exploitations qui sont pour la plupart dans le rouge et qui n'arrivent plus à dégager de bénéfices.
Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment, et c'est compris aussi comme ça par le consommateur, d'avoir un prix juste pour tous les maillons de la filière, pour le consommateur, mais aussi pour le producteur. Et là-dessus, il faut qu'on rénove nos relations commerciales, qu'on retravaille nos filières pour savoir comment aboutir à ce prix juste. Et c'est aussi comme ça qu'on redégagera des perspectives pour les jeunes qui souhaitent s'installer.
Un gros tracteur qui arrive jusqu'à nous. Question d'abord au sociologue François Pursaigle. Ils vont comment, nos agriculteurs, en 2016 ? Pas très bien, on dirait.
Oui, d'une certaine manière, ils n'ont jamais été aussi peu nombreux. Ils sont avant tout effacés dans la société française. On estime qu'à l'horizon 2020, ils ne seront plus que 320 000. C'est une population vieillissante. Il y a 10 fois moins d'agriculteurs aujourd'hui qu'il y a un siècle. Effacés, ils sont également isolés. L'agriculture française, ce sont avant tout des hommes seuls sur leur tracteur qui travaillent avec des salariés. Une agriculture qui est de plus en plus éclatée. En fait, l'agriculture française renvoie à une diversité de situations, de projets. Il n'y a pas un visage, mais des visages agricoles. Il n'y a pas une profession, mais bel et bien des professions. Et puis, en témoigne, ou du moins en témoignaient les extraits qu'on vient d'entendre, c'est une population qui est parfois, même très souvent, fragilisée. Il y a des écarts de revenus qui sont très, très importants dans cette profession, des écarts qui vont de 1 à 5. C'est une population qui est dans une situation d'assujettissement, parfois, de paupérisation, de grande précarisation. Il ne faut pas oublier que 20% des ménages agricoles touchent le SMIC. Et puis, c'est donc une population qui apparaît comme quelque peu déclassée, du moins qui paraît être dans une situation d'oubli. À cette situation où ce sentiment de déclassement s'ajoute le fait que c'est une profession, des professions de plus en plus controversées dans leur pratique.
Mal-être agricole et défis alimentaires d'ici 2050, on l'évoquait, il faut d'ores et déjà penser l'avenir du monde agricole. Philippe Biwix, l'agriculture de demain, vous la voyez ou vous la souhaitez comment? Écologiquement intensive, technologiquement durable ou techniquement soutenable?
Bah effectivement, moi je la souhaite un peu tout ça à la fois. Le problème c'est qu'aujourd'hui on ne pense l'innovation qu'à travers, à travers les technologies, c'est-à-dire que pour faire de l'innovation il faut être numérique, il faut des robots, il faut des drones, il faut des biotechnologies, un peu de tout ça. Et que malheureusement cette troisième révolution industrielle, à la Rifkin, eh bien, elle est extrêmement consommatrice d'un certain nombre de ressources rares, des métaux, des choses un peu bizarres qui servent dans les cartes électroniques, qui servent dans tous les objets numériques. On va être très dépendant des centres de données, etc., qui sont consommateurs d'énergie et de ressources. Et donc cette course avant technologique, elle est consommatrice de ressources, elle est consommatrice aussi, enfin génératrice de déchets électroniques. Voilà. Et donc mon inquiétude, c'est qu'effectivement, alors l'agriculture n'est pas le seul secteur à plonger avec extase dans le numérique. Hein, je veux dire, même les fabricants de maillots ont inventé le bikini connecté qui vous prévient sur smartphone qu'il est temps de se retourner sur la plage quand vous avez pris un peu trop le soleil.
C'est important.
Donc je veux bien croire qu'effectivement, là pour le coup, il y a un côté pratique à installer des capteurs sur une vache pour, par exemple, être prévenu sur son smartphone que le vélage approche et que donc il faut prendre les mesures nécessaires et ou appeler le vétérinaire. Simplement, voilà, on est dans une course en avant technologique et qui va nous créer des problèmes et qui nous éloigne de la durabilité technique, qui nous éloigne également de la résilience, hein, c'est-à-dire qu'on va être dépendant, toujours plus dépendant, au lieu d'aller vers de l'autonomisation des paysans, eh bien, on va aller vers une dépendance technologique, financière, accrue, hein, à toutes ces filières industrielles, à ces fabricants, avec de la valeur ajoutée qui va partir quelque part du secteur agricole, continuer à partir, après les intrants, après les pesticides, continuer à partir vers l'industrie.
Avec nous, Jean-Marc Bournigal, qui défend ce rapport Agriculture et Innovation 2025, commandé par le gouvernement, qui recense 30 projets pour une agriculture compétitive et respectueuse de l'environnement, donc un rapport basé sur ces innovations. Jean-Marc Bournigal, de quelles innovations parle-t-on? On a beaucoup parlé des drones, qui ne servent donc pas qu'à faire la guerre, et c'est un drone d'ailleurs qui illustre en couvert votre rapport, drone, mais aussi imagerie satellite, capteurs. Comment ces technologies sont d'ores et déjà utilisées?
On y est déjà. Je crois qu'il ne faut pas non plus se leurrer et de penser que l'agriculture est profondément arriérée. Si vous regardez aujourd'hui, une installation sur deux dans le domaine de l'élevage se fait avec des robots de traite. Déjà, dans les élevages, on a déjà des robots pour l'affouragement des animaux. On commence à voir les premiers robots qui arrivent au niveau du maraîchage. De plus en plus, on a des objets qui sont connectés dans l'agriculture. Les tracteurs ont des tablettes pour pouvoir les piloter, qui sont aussi pilotés grâce à du GPS. On commence à utiliser l'imagerie satellitaire pour le conseil en agriculture. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui sont aujourd'hui abonnés à un système qui s'appelle FarmStar, qui utilise des données satellites. Donc on y est déjà. Et d'un certain côté, on peut toujours craindre effectivement une certaine dépendance par rapport à la technologie, mais il faut aussi répondre aux aspirations des nouvelles générations pour s'installer dans le monde agricole. Donc on voit bien qu'il y a aussi un lien entre l'image du monde agricole, le métier lui-même pour pouvoir attirer les générations futures. Et en même temps, quand on veut avoir une agriculture qui soit en même temps productive, parce qu'effectivement il faut répondre aux besoins alimentaires, mais également protectrice de l'environnement, parce qu'il faut garantir les droits des générations futures, on s'aperçoit que le nombre de critères à maîtriser par les agriculteurs devient extrêmement important en termes de risque climatique, de risque sanitaire, de risque économique avec les variations des prix que l'on connaît. Et en fait, ces nouvelles technologies doivent permettre aux agriculteurs justement de mieux maîtriser ces risques, de les accompagner dans ces métiers qui deviennent aujourd'hui extrêmement difficiles à gérer s'il n'y avait pas ces nouvelles technologies.
Il y a une idée de précision, hein, récupérer des données agricoles pour mieux développer des outils d'aide à la décision, c'est ce que dit votre rapport, récolter en gros ces données pour essayer d'affiner les analyses, les prévisions aussi en termes de météo, d'état des sols, etc. C'est en cela que ce big data agricole, cette collecte, ce traitement des données peut révolutionner pour la production agricole.
L'avantage de nouvelles technologies qui sont liées au big data, c'est que ça nous permet, sur l'ensemble des données, de pouvoir construire des outils de la décision qui accompagnent les besoins des agriculteurs. Alors, on a des données météorologiques, on a des données sur les besoins des plantes et leurs évolutions. Ça nous permet d'avoir une meilleure maîtrise de la culture elle-même, c'est-à-dire les besoins en eau, les besoins en intrants, que ce soit sur des engrais azotés ou des engrais organiques, les besoins en termes de traitement phytosanitaire, de façon à limiter très fortement leur utilisation, et tout ça au service d'une optimisation de la production de la plante. Et on peut intégrer dedans maintenant des éléments également sur la protection des sols, la protection de la biodiversité. Et c'est vrai que l'ensemble de ces données, ça permet aujourd'hui de développer de nouveaux outils d'accompagnement, de services, pour pouvoir aider les agriculteurs. Et ces outils d'aide à la décision, lorsqu'ils sont couplés à des machines agricoles, qui peuvent aller jusqu'à des robots, permettent aussi d'avoir des principes d'action et de précision extrêmement précis, ce qui vont tout à fait dans le sens d'une meilleure maîtrise de l'activité agricole.
Côté robotique, en effet, on pense tout de suite, vous l'évoquiez, un robot de traite pour les vaches, mais de nouveaux usages ont d'ores et déjà été inventés. Le robot qui bine les sols, le robot d'alimentation qui distribue la nourriture, le robot qui récolte ou celui qui porte les fruits de la récolte. Mmh. Hein. Mais pour l'instant, les robots aident surtout à surveiller en analysant les plants, par exemple, et en informant l'agriculteur quand il a détecté quelque chose qui cloche. François Pursaigle, est-ce que vous voyez, vous, l'importance de cette robotisation pour soulager les agriculteurs d'une partie des tâches les plus pénibles et répétitives? Est-ce que ça va permettre d'améliorer le travail des agriculteurs?
Ce qui est sûr, c'est que c'est pas nouveau, hein. L'introduction des machines en agriculture n'est pas nouvelle. Le précepte qui sous-tend la mutation agroécologique dont on parle, c'est-à-dire le produit autrement, ne peut s'exprimer d'une certaine manière qu'à travers aussi la mesure, la valorisation, la gestion. Et c'est vrai que on sent bien que les agriculteurs ont besoin de dépasser d'une certaine manière le triptyque de la modernisation agricole qui était le voir, le juger, l'agir, hein, de la JAC, la jeunesse agricole catholique. On voit bien aujourd'hui que les agriculteurs, de toute façon, se doivent d'expliquer ce qu'ils font. Et sont dans l'obligation de mesurer aussi leurs pratiques, d'identifier les canaux, les voies de la valorisation. Il faut montrer qu'ils sont efficients sur le plan agroécologique. Et en ce sens, on peut imaginer que si le robot ne permettra pas forcément aux agriculteurs de mieux vivre, il pourra peut-être, d'une certaine manière, expliquer ou contribuer à l'explicitation des pratiques, même si les agriculteurs, au-delà du robot, ont la main dans cette explicitation.
Le fait que ces technologies, ces innovations soient aujourd'hui au service du rendement, hein, l'idée de produire plus de la quantité n'empêche pas qu'elles puissent aussi demain servir la qualité de la production. Philippe Biwix, vous ne voyez pas dans ce big data agricole, ces innovations technologiques, la possibilité d'améliorer aussi l'agriculture d'aujourd'hui, cette ferme connectée, ça vous fait vraiment pas rêver?
La course qu'on constate aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une course au rendement, même si on commence à avoir le problème, puisqu'on voit effectivement les rendements qui commencent à stagner. Mais en réalité, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une course en avant sur la productivité, c'est-à-dire de continuer à dire, voilà, il faut être compétitif, c'est-à-dire qu'il va falloir continuer à ce que les campagnes se dépeuplent, parce que il faut qu'on exploite toujours plus d'hectares, toujours plus de vaches, toujours plus de cochons, avec le moins de personnes possible. Et pour ça, évidemment, les robots vont nous aider, les drones vont nous aider, parce qu'effectivement, au lieu de mettre quelqu'un à désherber à la main en agriculture bio, parce que j'utilise pas de désherbant, et ben je vais mettre un petit robot. Et puis au lieu d'avoir un viticulteur qui va aller jeter un coup d'œil à ses vignes après la pluie en se disant « Ouh là là, est-ce que c'est en train de tourner il va falloir que je mette des fongicides ou pas ?» Et ben on va envoyer un drone pour surveiller. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'effectivement, ça va permettre d'exploiter plus d'hectares. Donc on est dans cette course en avant, des exploitations toujours plus grandes, avec de moins en moins de personnes, Et on continue à machiniser, mais c'est une machinisation qui n'est plus là comme la machinisation, disons la première machinisation ou la deuxième machinisation agricole qui était là finalement pour remplacer de la pénibilité physique. C'est une machinisation qui tout simplement, un peu comme dans les autres secteurs industriels, est là pour remplacer du travail humain par des robots.
Donc voilà. C'est un mal pour l'emploi, Philippe Biwix, pas forcément pour l'agriculture.
Oui, mais de quoi a-t-on besoin? De quoi a-t-on besoin aujourd'hui? Là, c'est ça la question. C'est, on a 5 millions de personnes qui travaillent pas et on a des sols qui s'épuisent avec d'un côté la bosse qui est devenue un désert. C'est une culture quasiment hors sol et qui ne vit que par les intrants et ne produit que par les intrants. Et de l'autre côté, les usines à cochons de la Bretagne et on sait pas quoi faire des nitrates. Il y a aucune réflexion, par exemple, sur les cycles agricoles. Comment est-ce que je referme les cycles de l'azote, les cycles du phosphore? Et pour ça, il faut remélanger, par exemple, élevage et agriculture. Et on n'est pas du tout dans cette logique-là aujourd'hui.
Jean-Marc Bournigal, le futur du travail paysan, est-ce qu'on peut l'inclure aussi dans la manière de penser ces innovations, ce futur technologique ?
Bon, je pense qu'on ne peut jamais le balayer du revers de la main. Ce qu'il faut aussi tenir compte, c'est simplement l'évolution générale de la société. On regarde depuis des décennies, effectivement, on a un mouvement des populations du milieu rural vers les villes. Les installations se font dans ce sens-là. Les difficultés aujourd'hui à trouver de la main-d'œuvre dans le milieu agricole, c'est une véritable réalité pour l'ensemble des agriculteurs. Et on voit bien sur les moments de récolte et la difficulté à trouver des gens pour aller faire ce genre de métier, qui restera de toutes les manières des métiers, au moins sur la main-d'œuvre agricole de base, avec des salaires extrêmement bas. Et en milieu rural, ce qui rend encore les choses les plus complexes. Donc, il y a certes une réalité qu'il y a l'emploi, mais il y a de l'autre côté la nécessité de pouvoir accompagner la complexité que génèrent aujourd'hui les obligations qu'on met derrière le concept d'agroécologie. Ça veut dire que si on veut être sûr de pouvoir apporter les choses, enfin la bonne dose, au bon endroit, au bon moment, ça nécessite effectivement l'intervention de plus en plus poussée de systèmes de haute précision. Et c'est vrai que cette technologie répond quand même à un véritable besoin. On parlait tout à l'heure de l'image de l'agriculture vis-à-vis de la société, qui est un véritable problème. Et on voit bien dans l'expression aujourd'hui du monde agricole, cette espèce de non-reconnaissance de la société par rapport à leur métier et au rôle qu'ils jouent dans la société est un élément extrêmement important aussi du mal-être dans les campagnes. Donc cet élément devrait, à mon sens, y contribuer. Et c'est vrai qu'ensuite, dans la nécessité de produire plus et mieux, on a bien effectivement cette notion de rendement-productivité, qui effectivement sont deux notions qui sont parallèles, mais qui doivent aller de même dans une économie telle que la nôtre aujourd'hui.
Je vous lis une critique du site de veille citoyenne InfoGM concernant votre rapport qui est décrypté longuement sur ce site. Le gouvernement français aurait pu choisir d'intégrer également des recherches participatives mises en œuvre par les acteurs des filières bio et paysannes, mais la mission confiée semble plutôt viser à renforcer a priori un certain type d'innovation pensée dans les laboratoires et valorisable via des start-up ou des brevets.
D'abord, on a essayé de balayer extrêmement large. On a rencontré de très nombreux acteurs, plus de 300 acteurs de toutes les filières. Et quand on ressort un petit peu sur les innovations, on les a identifiés en trois gros axes. Un axe qui est plutôt système, en disant aujourd'hui, on ne peut plus simplement rentrer par une action sur une parcelle, c'est un système, c'est ce qui tourne autour de la notion d'agroécologie qui englobe des territoires, ou la notion de bioéconomie qui va intégrer les notions de bouclage de cycle dont on parlait il y a quelque temps, et puis également d'économie circulaire. Donc c'est un élément important. Et dans les innovations, derrière, il y a des innovations technologiques, donc l'agriculture numérique, la robotique, le levier génétique, le biocontrôle. Mais nous avons mis en avant aussi la notion d'innovation ouverte et la nécessité de mieux valoriser toutes les innovations qui viennent du terrain, parce que c'est effectivement extrêmement important. Et on voit bien qu'à travers des groupements d'agriculteurs, pas mal d'innovations avec des véritables résultats technico-économiques peuvent apporter un plus. Et c'est une des propositions où nous avons mis en avant la nécessité d'introduire cette dynamique de valorisation de l'innovation des agriculteurs eux-mêmes pour qu'elle puisse diffuser sur les territoires également. Donc pour répondre à la question, il n'y a pas que l'innovation technologique, il y a aussi l'innovation du terrain qui va être mise en avant.
François Purcègle, vous dites l'innovation c'est bien, mais on peut aussi innover en matière d'organisation du travail. Et là, les deux points se rejoignent.
Oui, tout à fait. On n'a pas, je le disais tout à l'heure, une agriculture, mais des agricultures. Pourquoi ? Parce qu'on assiste bel et bien à une recomposition en profondeur des entreprises agricoles, et notamment de l'entreprise familiale agricole, même si elle prédomine. On voit bien aujourd'hui qu'elle coexiste avec des modèles d'entreprise bien différents. On voit bien que l'entreprise agricole se banalise, à la fois dans sa gouvernance, dans son rapport aux actifs stratégiques, dans sa gestion opérationnelle, hein, à l'approche globale du système exploitation, c'est-à-dire cette imbrication entre le projet de famille et le projet d'entreprise. On voit bien qu'il y a des approches en termes de projet, hein, qui se développent. On voit bien que le rapport à la main-d'œuvre évolue, que la capacité même d'innovation des entreprises agricoles évolue. On a d'une certaine manière à la fois des agricultures familiales qui coexistent avec des grandes agricultures de firmes et des agricultures de subsistance. Alors, pour revenir sur la question de l'innovation, la question qui se pose est de savoir à quel moment les agriculteurs auront les outils et les moyens de ne pas se faire dominer par l'innovation, et notamment l'innovation technologique. Alors, ça passe aussi par le groupe, et on voit bien de toute façon sur le terrain que les innovations sont en marche, et il est important aussi que les agriculteurs puissent être reconnus dans leur capacité à innover, même sur le plan technique. Les agriculteurs n'attendent pas forcément des instituts techniques ou des grands centres de recherche que l'innovation tombe sur les territoires. Ils la portent, ça a été souligné tout à l'heure, et toute la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si cette innovation ne va pas faire l'objet d'une appropriation par des entreprises qui auraient des velléités sur ces actifs agricoles. C'est aussi aux organisations professionnelles, aux paysans eux-mêmes, de s'organiser pour faire en sorte que ces innovations ne leur échappent pas. Même dans les entreprises familiales aujourd'hui, l'innovation peut être mobilisée, même l'innovation technique, à de très petites échelles.
Mais elle a un coût, cette innovation. Elle n'est peut-être pas accessible non plus pour
oui,
tous.
Oui, d'où la nécessité à un moment donné
de politique publique aussi, de soutien.
Tout à fait. Et puis de reconnaître la mutualisation des outils de production, parce que certes, la robotisation permettra aussi l'innovation si les agriculteurs en ont les moyens. Parce que le risque, c'est que des agricultures peut-être plus financiarisées ne soient les seules à s'approprier ces innovations. Donc il faut faire en sorte que des exploitants moyens, voire de petite taille, puissent mutualiser leurs outils pour avoir accès à l'innovation.
France Culture, l'innovation au secours de l'agriculture de demain, on en débat ce soir avec le président d'IRSTEA, co-auteur du rapport Agriculture et Innovation 2025, le sociologue des mondes agricoles qui est avec nous en duplex de Toulouse, François Purseigle, et l'ingénieur Philippe Biwix qui est quant à lui à Bordeaux, auteur de L'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable. On est ensemble jusqu'à 19h. Lost in Traditions, extrait de l'album Rock Farmers du duo montois The Inspector Clouseau. Les deux rockers du Sud-Ouest, le guitariste et chanteur Laurent Lacroute et le batteur Mathieu Jourdain, ont acquis une ferme dans les Landes où ils élèvent oies et canards et produisent foie gras et rillettes entre deux riffs de guitare. Voilà, spécialement pour vous, c'est une découverte de Mathieu Conquet qu'il nous avait présenté le mois dernier dans Continent Musique, émission musicale de France Culture tous les vendredis à 15h, je vous le rappelle.
France Culture, dimanche et après. Olivia Gesbert.
Vous l'évoquiez, François Purseigle, à l'instant, il y a quand même aujourd'hui un risque à première vue que tout ce marché de l'innovation, de la robotisation profite d'abord aux gros équipementiers qui vont être contents, hein, et les grosses exploitations capables d'investir dans ces outils. Les ouvriers agricoles risqueraient, seront-ils d'ailleurs les grands perdants et les paysans un peu ringardisés de cette mise à la modernité, un peu à marche forcée pour certains. Donc comment inclure tout le monde dans ces évolutions et puis faire en sorte qu'elles profitent à tous. L'agriculture française a aussi un problème de compétitivité. On parlait productivité tout à l'heure avec vous, Philippe Biwix. De nombreux secteurs sont en crise, des éleveurs aux producteurs de lait avec des revenus agricoles très faibles. Est-ce que ces innovations peuvent être, et vous le souhaitez, j'imagine Jean-Marc Brunigal, aussi mises au service de la compétitivité?
On le disait aussi tout à l'heure, les innovations doivent s'accompagner en fait de deux éléments relativement importants. Le premier, c'est que ça va avoir un impact en termes d'innovation organisationnelle. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas traiter, par exemple, les problèmes d'eau, les problèmes de biodiversité, les problèmes de pollution diffuse à la seule échelle d'une exploitation agricole. Et donc, on doit traiter au niveau des territoires, ce qui amène les agriculteurs à devoir s'organiser différemment. Et c'est vrai que le numérique va permettre un certain nombre d'évolutions. Le deuxième élément, c'est que, effectivement, la technologie a un coût. D'un certain côté, quand elle se démocratise, les coûts baissent. Mais de l'autre côté, ça amène aussi à revoir les relations entre les agriculteurs et les équipements. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on n'achète plus vraiment un tracteur. On achète essentiellement une unité de service. Donc on va probablement vers aussi de plus en plus de partage ou de mode de partage des agroéquipements de façon à ce que on puisse en maîtriser les coûts. Donc
elle a un coût et une grande frange du secteur agricole, une partie des agriculteurs sont déjà très endettés.
Ils sont déjà très endettés et paradoxalement, ils sont aussi déjà très équipés, voire plus équipés que leurs voisins européens.
Vous alliez dire trop équipés, peut-être.
Dans certains cas, trop équipés, oui. On le sait bien, sur un certain nombre de grandes cultures, on a fait des investissements probablement un peu trop importants, liés à une fiscalité ou des modalités fiscales qui permettaient de, pas forcer, mais enfin, en tout cas, accompagner les investissements. Et le deuxième élément, côté de l'innovation organisationnelle, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le problème de la captation de valeur. Et c'est vrai qu'une des difficultés avec la numérisation qui est en train d'arriver, c'est de s'assurer qu'on mette en place un système qui permette d'éviter justement que soit les grands semenciers, les grands agrochimistes, ou de l'autre côté les agroéquipementiers, puissent à travers la numérisation capter les services et imposer des modes de production et donc aussi de capter de la valeur. Et c'est pour ça que nous préconisons, notamment sur la partie des big data, d'aller vers un système où les agriculteurs pourraient reprendre la main sur leurs données et donc de créer un portail numérique qui serait détenu majoritairement par le monde agricole de façon justement à peut-être un petit peu mieux maîtriser dans cette phase de transition où va aller la chaîne de valeur et pouvoir peut-être rebattre un petit peu les cartes par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui.
Alors, compétitivité et économie agricole, Jean-Marc Brunigal, vous serez notamment vendredi prochain, le 4 mars, au stand de l'INRA au Salon de l'Agriculture, bien sûr, pour introduire une table ronde réunissant divers experts sur ce sujet. Philippe Biwix, la compétitivité, c'est bien. Produire plus pour répondre aux défis démographiques des décennies à venir, c'est bien aussi, mais il faudra aussi produire mieux. Ce respect de la biodiversité, le respect des sols victimes d'appauvrissement, l'utilisation raisonnée des intrants, la rareté de l'eau. Comment faire pour que ces innovations nous protègent à l'avenir aussi des dérives des cultures intensives? Comment les penser en termes aussi d'impact environnemental? Vous avez le secret?
J'ai pas tout à fait le secret, mais je pense que effectivement dans l'innovation, le pire côtoie le meilleur. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des choses dont on voit bien qu'on va pas réussir à résoudre la quadrature du cercle, c'est-à-dire récupérer ces données et en être propriétaire, enfin réussir à faire quelque chose que en gros on arrive à faire nulle part ailleurs dans le numérique, où on voit bien que les grandes sociétés, les Google, les Facebook et autres sont en train de prendre totalement la mainmise sur la chaîne de valeur et sur l'intermédiation, hein, toute cette question de l'uberisation aussi de la société. Mais on a des choses très bien, effectivement. Moi, quand je vois dans le rapport Innovation 2025, on a la question du biocontrôle, par exemple. Donc le biocontrôle, c'est en gros essayer de remplacer, on va dire, les pesticides, hein, pour les plantes par des prédateurs, de ravageurs, d'en faire des choses de la lutte biologique. Bon, ça, c'est formidable. Sauf qu'effectivement, pour le faire, on est en phase de recherche, il va falloir offrir un habitat aussi à ces prédateurs de ravageurs. Donc il faut des haies, il faut des plus petites parcelles, il faut un bocage et un paysage agricole qui n'est plus tout à fait celui des plaines de grandes cultures qui ont été organisées par la SAFER et tous les pouvoirs publics depuis 50 ans. Donc moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on cherche exactement à faire et vers où on va? Parce que si on tire le trait, si je tire le trait après 2025, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'étape d'après de l'innovation? Alors j'ai trouvé, peut-être vous pourrez voir ça, il y a un professeur de l'Iowa, hein, qui a inventé un casque de réalité virtuelle pour poulets. Alors, vous savez, la réalité virtuelle, hein, c'est ce, vous chaussez ça sur vos yeux, et puis bah, vous êtes dans un autre monde hein, numérique, et vous pouvez passer des images de synthèse comme ça. Alors, il a appelé ça « Second Livestock », qui est un jeu de mots absolument intraduisible, parce que c'est un jeu de mots entre le jeu de réalité virtuelle « Second Life », et puis livestock qui veut dire troupeau en anglais, voilà. Et donc l'idée de, alors vous allez me dire à quoi ça sert de mettre un, de chausser chaque poulet d'un petit casque de jeu vidéo à sa taille.
Et en fait c'est comme ça.
Eh ben c'est exactement, c'est pour le moral, parce qu'en fait ils sont quelques dizaines par mètre carré, mais en fait avec leur petit casque ils vont avoir l'impression de vivre dans le Gers au plein air. Alors c'est peut-être pas pour 2025, c'est peut-être pour 2026, mais c'est pour vous donner une idée un peu de jusqu'où on peut aller. Puis il y a d'autres choses, hein. Je veux dire, on pourrait aussi dire, finalement, le bien-être animal, ben, il faut plus élever d'animaux, donc on va faire des imprimantes à steak 3D. Hein, vous savez qu'avec les cellules souches, c'est déjà des choses qui sont en train de partir. Et puis vous pouvez aller vers des choses un peu plus
orwelliennes. Ça n'a pas l'air de choquer hein, Jean-Marc Bourniguel à Paris. Hein.
Ouais, c'est ça le problème. C'est bien ça qui m'inquiète. C'est qu'effectivement, ça choque personne. Ou alors, vous avez aussi ce qu'on appelle les barrières virtuelles, les clôtures virtuelles. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, bon, votre troupeau de moutons, il est contrôlé virtuellement parce que si chaque mouton se déplace un petit peu trop, en dehors de la zone qui lui a été fixée, bah, il va recevoir une petite décharge électrique qui va lui rappeler qu'il doit reculer. Donc ça doit permettre d'économiser le chien ou de lutter contre peut-être, de permettre la biodiversité, le retour du loup, j'en sais rien. Bon, avant de l'appliquer aux humains, évidemment, puisqu'on l'appliquera d'abord aux moutons et ensuite on finira par l'appliquer aux humains. Ça sera très pratique. Donc, moi, c'est ça mon inquiétude, c'est qu'en fait, on est le nez dans le guidon sur une innovation effectivement qui est innovation paillette, hein, qui c'est numérique,
que
c'est big data,
que
c'est génial, c'est plein
pas
de
que,
mots.
Pas que.
Il y a des choses parfaitement utiles, effectivement, qui répondent à des vrais besoins. Je crois qu'il y a énormément de choses que je partage, qui ont été dites, mais le problème, c'est que ça côtoie, voilà, le meilleur côtoie le pire. Et moi, mon sentiment, c'est qu'on passe complètement à côté des vraies innovations. C'est-à-dire qu'il faut, bien sûr, il faut du partage de savoir, du partage de techniques, de bonnes pratiques. Il y a plein de choses à faire. Mais pourquoi on parle pas plus de rotation de culture, de semis sous couvert, d'agroforesterie? Il faut reconstituer les sols. Un sol, il faut des arbres. C'est les arbres qui attaquent le sol, les racines des arbres. Bon, il y a rien sur tout ça. Il y a effectivement quelques trucs un peu grandiloquents dans les premiers paragraphes qui expliquent que ça va être génial et qu'on va faire quelques recherches dessus. Mais au global, derrière, c'est le nez dans le guidon sur, effectivement, la mainmise industrielle.
Donc, si gare à faire entrer le loup technologique dans la bergerie. Réponse quand même peut-être de Jean-Marc Bourniguel et j'entends François Pursec. Vous avez
non, je pense que l'innovation ne se réduit pas forcément à l'introduction d'une nouvelle technologie. D'autres chercheurs plus compétents que moi dans le domaine l'ont montré. L'innovation passe aussi par le retrait. Le retrait de la charrue, on l'a vu avec le développement des techniques simplifiées sans labour. On a vu que les agriculteurs n'ont pas attendu une injonction quelle qu'elle soit pour justement imaginer d'autres canaux d'innovation que la simple introduction. D'autre part, de nouvelles technologies peuvent être aussi portées financièrement et technologiquement par de nouveaux acteurs de la production agricole, des réseaux de sous-traitants aujourd'hui en agriculture, prennent en charge aussi le développement de certaines technologies et mettent à disposition de certains agriculteurs qui n'ont pas à investir dans des technologies qui leur permettront de mieux mesurer, de mieux gérer, de mieux valoriser. C'est le cas de réseaux de sous-traitants, ça peut être le cas de coopératives aussi, qui prennent en charge, à un moment donné, le coût qui serait généré par l'introduction. Mais attention, l'innovation ne renvoie pas simplement à l'introduction de nouvelles techniques ou de robots. Et puis d'autre part, je souhaiterais quand même préciser une chose, c'est que on a quand même des agriculteurs qui souhaitent vivre mieux, qualitativement, être moins contraints aussi par certaines dépendances. Et l'innovation apparaît aussi, même dans le monde de l'élevage, comme l'occasion de se soulager aussi. Parce que l'innovation, c'est pas forcément que des rapports de domination ou d'aliénation. Ça peut être aussi synonyme de temps libre. Ça peut être synonyme de meilleur vivre.
On est déjà entré dans l'ère post-OGM, hein, nous dit l'agronome économiste Michel Griffon, pour qui on peut aujourd'hui, ou on pourra bientôt accélérer les mutations que les plantes opèrent naturellement, sans modifier notamment le génome des plantes. Michel Griffon, vous savez, c'est lui qui défend ce concept d'agriculture écologiquement intensive, intensive en écologie, pas forcément intensive en produits chimiques et en capitaux. Sauf que cette séquence OGM, qui dure depuis un certain temps, a quand même accentué, accru la méfiance, hein, du grand public syndics et d'une partie du monde paysan sur l'impact ou l'introduction de la science dans la nature. Dans l'entretien donné à la veille de la précédente édition du Salon de l'agriculture, François Hollande expliquait que l'objectif est d'intégrer les avancées de la science dans le travail agricole. Alors comment faire quelque part pour dissiper cette méfiance, voire défiance, telle qu'exprimée, entre autres, à l'instant par Philippe Biwix, et qui a quand même de solides fondations à l'égard de ces innovations, et notamment des biotechnologies dont on a assez peu parlé jusqu'ici, Jean-Marc Bournigal.
Oui, je pense qu'on peut toujours jouer à se faire peur sur les innovations et imaginer un monde sans âme, dominé par des machines, on aurait perdu le sens. Le rapport tel qu'on l'a établi, d'abord, c'est inscrit dans un contexte général et on n'a pas repris ce qui avait déjà été fait par ailleurs. On s'est limité à sortir un certain nombre de projets. Il est évident que tout ça, pour que ça marche, il faut donner du sens à quel type d'agriculture ou vers quoi on veut aller. Et donc, dans l'agroécologie, vous avez ce qui a été dit est tout à fait vrai, il y a tout un volet qui est aussi, la redécouverte, mais enfin en tout cas la mise en avant de l'agronomie dans le système, la rotation des cultures, l'agroforesterie en fait partie. Mais justement, plus on est dans ce genre de système, plus la complexité de gestion l'augmente et plus, à la limite, l'intérêt d'avoir un certain nombre d'innovations pour les accompagner est intéressant. De même sur les sols, il y a des recommandations extrêmement fortes sur les sols. Il y en avait une qui avait été reprise d'ailleurs par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, lors de la COP21 sur le 4 pour 1000, c'est-à-dire augmenter la capacité de séquestration du carbone dans les sols. Ça en fait partie des innovations. Mais c'est vrai qu'il faut prendre les innovations dans leur ensemble au service d'un modèle d'agriculture que l'on veut mettre en avant. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de porter derrière, c'est en disant, si vous nous donnez accès à toutes ces innovations, avec un modèle d'agriculture qui est tourné autour de l'agroécologie, on devrait pouvoir aller vers quelque chose qui est durable et qui maintient ou qui donne du sens. Les OGM, c'est vrai que c'est un débat qui est extrêmement vivant et qui anime, en tous les cas, la controverse depuis déjà maintenant des années. C'était autour de la modification du génome. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions technologiques que l'on met derrière ces notions de génie ou de biotechnologie, où on n'est plus tellement en train de modifier le génome en tant que tel, mais on peut modifier l'édition du génome. Et on peut aussi, à travers la génomique, c'est-à-dire la capacité que nous avons maintenant de pouvoir traiter les ADN des différentes plantes, accélérer la sélection qu'on aurait pu mettre derrière la sélection dite naturelle, pour pouvoir faire émerger des plantes qui ont besoin de moins d'eau, qui sont plus résistantes aux maladies, qui permettent donc de diminuer un certain nombre d'intrants, qui s'adapteront au changement climatique. Donc c'est vrai que tout ce que l'on met derrière cette notion de génie, du moins de levier génétique dans notre rapport autour de la génétique, la biotechnologie, c'est d'essayer aussi de faire profiter de toutes ces évolutions au service, effectivement, de l'agroécologie qui va demander à ce que l'on ait, pour pouvoir avoir plus de rotation de culture, il faut pouvoir aussi avoir plusieurs types de plantes qui seront adaptées aux évolutions qui vont se mettre en avant. Et c'est vrai que toutes ces technologies vont permettre d'aller dans ce sens-là. Et on n'est plus simplement dans ce strict débat des OGM.
François Purseigle à Toulouse, est-ce que l'enjeu de demain, ce ne sera pas aussi faire coexister ces innovations et surtout ces différents modèles d'agriculture ?
Oui, je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, nous sommes face à cette coexistence, non pas de modèles, mais de structures d'entreprise. L'un des enjeux pour nos politiques, nos organisations, nos collectivités territoriales, est de faire en sorte que cette coexistence ne renvoie pas à des rapports de domination. Ça veut dire mettre en place peut-être des dispositifs de politique publique différenciés pour accompagner cette diversité d'agriculture. Et puis, je terminerai aussi là-dessus, par rapport à l'innovation, je pense que l'un des grands défis, c'est celui de la formation. La formation de nouveaux ingénieurs aussi agri, qui penseront avant tout la complexité des systèmes agroécologiques. Et là, je pense que c'est peut-être le défi majeur que de mieux former aussi des ingénieurs qui accompagneront les agriculteurs dans la gestion de toutes ces controverses.
Il va falloir, Philippe Biwix, penser l'innovation et penser le changement en amont, mais aussi le penser en aval, avec toute la question du recyclage, des transports et aussi du gaspillage. Est-ce qu'une innovation contre le gaspillage est en train d'être pensée, d'après vous ?
Je pense que c'est difficile de lutter dans le système actuel contre le gaspillage alimentaire, qui est donc, pour mémoire, est à peu près de 25 à 30% en Europe. On jette 25 à 30% de la nourriture qu'on produit. C'est compliqué dans le système actuel, c'est-à-dire avec tout le système agroalimentaire et de distribution qui finalement et de restauration collective, etc., avec une multiplicité de plats qui incite à jeter beaucoup. Donc pour faire moins de gaspillage alimentaire, il faut revenir sans doute à des circuits plus courts.
Remplacer, pardon, l'utopie high-tech ou technoscientifique par le low-tech, ça ressemblerait à quoi ?
Ça ressemblerait, dans l'agriculture, à de beaucoup plus petites exploitations, plus intensives en main-d'œuvre, avec peut-être un travail qui serait réenrichi et retrouvé, parce qu'aujourd'hui, finalement, on n'est jamais qu'un esclave du système agroalimentaire. Et qui permettrait à la fois de retrouver des aliments qui ont du goût. À chaque fois qu'on a quelque chose qui est produit en qualité, c'est parce qu'il y a plus de main-d'œuvre et de savoir humain qui a été injecté. Donc c'est ça la question, c'est est-ce qu'on peut aller vers quelque chose qui soit une société techniquement soutenable, c'est-à-dire qu'il ne soit pas effectivement à prélever des ressources à l'autre bout de la planète, au Congo, en Australie ou au Brésil, à générer des déchets qui vont terminer dans les nappes phréatiques du Ghana, de la Chine ou de l'Inde, puisque les déchets électroniques, c'est à peu près là-bas qu'ils vont terminer et qui terminent aujourd'hui, ou même dans nos décharges quand ils sont pas triés. Et donc d'être durable, soutenable, n'être pas dépendant d'un système qui est en train d'exploser en termes de consommation énergétique, parce que peut-être qu'on économisera sur le champ, mais par contre le data center, lui, qui est à l'autre bout de la planète, je peux vous dire qu'il consomme de plus en plus, et Internet, c'est déjà 10% de l'électricité mondiale, et c'est pas fait pour freiner, voilà, et qu'il soit en même temps générateur d'emplois et d'un territoire revitalisé. Alors c'est compliqué, hein, je sais que l'équation est difficile, mais c'est ça mon utopie.
Mais ce sont vos pistes techniquement soutenables. Merci beaucoup Philippe Biwix. Après Mont-de-Marsan, on rejoint rapidement la campagne sartoise, d'où sont originaires cette fois les musiciens du groupe Tulou.
Des caresses d'un même toit, impossible qui se dévoile sur ce pays de fin du jour où le vent porte ton chambrin. La langueur sous le chapeau d'un accent qui traîne les pieds sur la patine des trottoirs de leur peau de serpent.
C'était Tejo, extrait du nouvel album Rameau du groupe Tulou dans les bacs vendredi, non pas le groupe mais l'album, à noter dans votre petit carnet musical à la rubrique Les lendemains du dimanche. Dimanche après, c'est fini pour aujourd'hui. À la page de l'émission sur franceculture.fr, vous pouvez vous abonner au podcast et bientôt, j'espère, recommencer à nous laisser vos commentaires. Pour l'instant, les forums de discussion n'ont pas encore rouvert à cause du nouveau site ou grâce au nouveau site, mais vous pouvez nous écrire en cliquant sur la petite enveloppe contacter l'émission. Je vous lirai comme toujours avec attention. Au micro ce soir, il y avait Jean-Marc Bournigal, il y avait à Bordeaux Philippe Biwix et il y avait à Toulouse François Pursaigle. À la réalisation ce soir, Olivier Guérin avec Clément Daté. À Toulouse, il y avait Patrice Lecomte à la technique. Merci beaucoup à lui. Et à France Bleu Gironde, c'était Sandrine Ortuno qui nous a ouvert les portes de son studio. Aux manettes des réseaux sociaux, c'était Mathias Mégy. À très vite pour un nouveau dimanche. Et après, nous verrons bien.